c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. S'annonce belle pour vous, je l'espère. En tout cas, elle est belle dehors. C'est vrai qu'on a une superbe météo. Alors, on est dans l'air du temps durant toute cette heure. Et en parlant d'air du temps, avez-vous remarqué? Ils sont partout. Ils sont de plus en plus nombreux. Pour la beauté, pour le travail, pour le sport, pour la déco, pour le bien-être, pour l'amour, pour la vie elle-même. On les appelle les coachs. Bon. Ne massacrons pas une nouvelle fois notre belle langue française. On se tiendra à les appeler les entraîneurs. Il n'y en a jamais eu autant. 4000 référencés rien qu'en France. Soi-disant qu'ils peuvent nous aider à vivre mieux. Eh bien, votre radio vous aide aussi à vivre mieux. Et je vous souhaite une très très bonne matinée.
Raison de plus pour vivre ensemble. On a souffert le même enfer, chacun pour soi. Car le bonheur par-dessus les murs de l'absence a des raisons que la raison ne connaît pas. Car notre amour, malgré l'hiver et la souffrance, aura raison de la saison des mauvais froids. Il n'est jamais trop tard pour vivre, jamais trop tard pour être libre. Raison de plus pour vivre ensemble, de ce désert, de cet hiver naîtra la joie, car le bonheur par-dessus le mur des étoiles tisse son fil jusqu'à cette île où tu m'attends. Voilà. pour le printemps. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Jamais trop tard pour être libre.
Nana Mouskouri sur Radio Plus. Alors, aujourd'hui, dans notre rubrique Saletant sur la planète, eh bien, nous parlerons d'éclairage public. En effet, un certain nombre de communes sont en train de rénover leur éclairage. Alors, Jean-Louis Ouattet nous mettra en lumière les nouvelles technologies. Et puis, Bertrand Trinel sera sans doute d'accord avec Jean-Louis pour nous dire qu'il ne faut pas trop d'intensité lumineuse la nuit afin de respecter toute cette faune nocturne. Bertrand, nous l'entendrons dans notre rubrique Jardiner autrement avec ses conseils et ses astuces. Et puis, focus aujourd'hui sur les prochaines manifestations organisées par le foyer animalier de Vermel. Et c'est Christine Defort qui nous donnera les dates et nous lui demanderons bien sûr aussi des nouvelles du refuge.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie.
Radio Plus avec Zaz. Alors notre enquête dans l'air du temps, il paraît que 57% de Français se laissent influencer par leurs enfants dans les magasins. Ils accompagnent très souvent leurs parents dans les sorties shopping. Alors les magasins les plus fréquentés par les parents avec leurs enfants sont fort logiquement les points de vente de vêtements et de chaussures, essayage oblige, suivi par les magasins d'équipements pour l'école et les activités extrascolaires. Surprise du cadeau oblige, les enfants ne sont que 13% à toujours accompagner leurs parents dans les magasins de jouets. C'est une enquête réalisée en août dernier par l'Institut Junior & Co. auprès d'un échantillon de 595 parents d'enfants âgés de 6 à 12 ans, qui montre que la consommation fait aujourd'hui partie des enjeux éducatifs que s'assignent les parents. Bon, là j'ai des doutes, mais bon.
Les petits, ça pousse comme un rien, ça pousse sa mère à la crise de nerfs, ça pousse en même temps que les cheveux blancs. Même si t'as 30 ans et que t'es le père, deux jours comme deux nuits.
Sur Radio Plus, les petits ça pousse vite, c'est vrai, et on fait en sorte de leur laisser une planète qui est encore l'apparence d'une planète, on va dire encore viable. Et oui, on pense à eux, et pour cela on retrouve Jean-Louis Ouatté avec qui on pense à l'avenir. Alors, oui, Jean-Louis, je vais peut-être mettre... Bonjour Jean-Louis, je vais peut-être...
Bonjour Martine, je pense que la musique...
Non, on va pas recommencer à zéro. Hein.
Ah bon?
Oui.
Ah, ça y est.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Et oui, le Pas-de-Calais, comme beaucoup d'autres départements, est en train de changer son éclairage public. La lumière nouvelle génération arrive dans bon nombre de communes. Alors, il faut quand même savoir que 45% des luminaires en service ont plus de 25 ans d'âge et que l'âge moyen de l'éclairage public est de 20 à 30 ans. Il faut préciser qu'il y a environ 9 millions de points lumineux en France, c'est-à-dire 33 points en moyenne par kilomètre de voie éclairée. Ça vous éclaire ça, hein, Jean-Louis ?
Ah, tout à fait, ça m'illumine même.
En tout cas, je vous redis bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, les communes se mettent donc au LED de façon succincte, car notre but n'est pas de faire un cours d'électricité, Jean-Louis. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est une ampoule LED, LED ?
Alors, LED, L-E-D, c'est un acronyme, alors c'est de l'anglais, évidemment, comme beaucoup de choses. C'est Light Emitting Diode, hein, c'est une diode électroluminescence. Donc, savoir que la lumière est produite par le passage de l'électricité dans un matériau semi-conducteur. Et donc, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe avec une cellule photovoltaïque d'un capteur solaire, puisque pour un capteur solaire, c'est la lumière qui produit de l'électricité, là, c'est le contraire. C'est l'électricité qui produit de la lumière. Donc la lumière blanche est produite de deux façons. Hein. Faut savoir que la LED émet de la lumière bleue, et donc elle est recouverte d'une fine couche de phosphore qui absorbe une partie du bleu et qui va réémettre de l'énergie sous forme d'autres couleurs lumineuses et qui donne à nos yeux l'aspect de la lumière blanche. Donc c'est le fonctionnement de la grande majorité des LED d'éclairage. Et puis, ou alors il y a trois LED, généralement rouge, vert et bleu, qui vont émettre simultanément leur lumière, et puis nos yeux perçoivent le mélange des trois couleurs, et donc on perçoit la lumière blanche. Alors, il faut savoir que les LED fonctionnent avec une faible tension électrique, hein, le plus souvent 3,5 volts, donc il leur faut un transformateur, qui est par exemple pour une ampoule qui est cachée dans le culot de l'ampoule ou qui est située dans un boîtier séparé. Donc, savoir que la consommation électrique évidemment est moins importante que la, pour les lampes traditionnelles, et c'est ce qui fait que bien il y a beaucoup de communes qui vont passer au LED, parce que, au savoir, vous l'avez dit, hein, le nombre de points lumineux en France, 9 millions de points lumineux, 33 points lumineux en moyenne par kilomètre de voie éclairée. Il faut savoir que ça a un coût de 9,3 euros par habitant et par an, donc ce qui n'est pas négligeable, et que donc, eh bien, il y a une marge d'économie de 50 à 75% pour les communes. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, mais bon, ça suppose des investissements quand même importants.
Alors, bon, 71% des Français déclarent, Jean-Louis, qu'un éclairage public de qualité peut renforcer l'attractivité d'une commune. 62% des Français déclarent que la qualité de l'éclairage public est révélatrice de son dynamisme. Il y a beaucoup à dire quand même sur ces statistiques et on verra pourquoi, mais dites-moi Jean-Louis. Ouais. Alors, donc, vous nous avez dit les avantages du LED, c'est d'abord une réduction de la facture, mais il y a quand même peut-être un gros investissement au départ.
Tout à fait. Bon, les LED vont permettre un éclairage, dans les avantages, un éclairage qui est plus ciblé et puis segmenté. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une baisse des coûts d'entretien. Ce qui fait que l'économie de maintenance est bien significative quand on va passer au LED. Donc c'est vrai que la technologie LED permet de diviser par 4 ou 5 les factures d'électricité. Et en plus, c'est une technologie qui ne cesse de progresser. Donc c'est vrai que c'est important. Et puis la durée de vie des ampoules à LED est largement supérieure à celle des autres technologies. Il faut voir que ça va jusqu'à 100 000 heures en laboratoire. Bon, il faut compter 40 000 heures sur le marché. Mmh. Et puis, ce qui fait que l'achat et le remplacement d'une lampe LED est beaucoup moins fréquent, ce qui améliore donc la rentabilité de l'investissement. Mmh. Il faut savoir aussi qu'il y a un éclairage maximal qui est instantané. Hein, donc les ampoules LED atteignent un niveau maximal de luminosité dès l'allumage. Donc et les sources à LED, ça admet des cycles d'allumage et d'extinction fréquents. Ça fonctionne en très basse tension et même sous de basses températures, ce qui est un avantage. Et puis, il y a peu d'échauffement, puisque l'échauffement moyen, c'est de 32 degrés, alors que les lampes à incandescence, c'est 150 degrés, les lampes fluo compactes, c'est 70 degrés. Mmh. Et enfin, c'est peu sensible au choc. Et puis, ça contient pas de mercure, et c'est en grande partie recyclable en tant que déchet non dangereux. Donc, il y a quand même beaucoup de points qui sont positifs.
Mmh. Mais alors, j'ai toujours appris, Jean-Louis, qu'il n'existait pas d'avantages sans inconvénients. Est-ce que c'est dans ce cas-là ?
Il y a quelques inconvénients. Pour l'éclairage public, un des inconvénients qui est mis en avant, c'est la sensibilité aux surtensions. Hein. Les LED sont particulièrement sensibles aux effets de la foudre. Donc, c'est vrai que c'est à prendre en considération parce que on a quand même on revient avec le changement climatique, on a quand même de plus en plus d'épisodes orageux et donc ça peut avoir un impact sur les LED. Après le problème, c'est la rapidité d'évolution des matériaux. C'est une nouvelle technologie à laquelle il faut s'adapter, mais quand on a fait un investissement quand même qui est lourd, on va pas le rechanger tous les ans. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Après, il y a le processus de fabrication, hein, qui est relativement énergivore, hein, ça consomme pas mal d'énergie. Donc le bilan énergétique global, qui comprend l'étape de fabrication et d'utilisation, n'est pas terrible, hein. Et puis, faut savoir que les lampes LED sont encore mal adaptées à l'éclairage de forte puissance. Donc, oui, il y a des inconvénients. Il y a certains qui remettent en cause les avantages économiques des LED parce que les garanties proposées sont souvent très éloignées des durées de vie annoncées. Et puis, la multiplication des références de matériel, la durée de remplacement, durée de vie potentielle n'est pas garantie. Et l'évolution des technologies rapides, comme je l'ai dit, ça joue pas en la faveur. Donc il y a davantage de coûts à prendre en compte qu'on ne peut l'imaginer.
Donc là, et puis là, c'est l'écologiste aussi qui parlait. Donc j'ai bien compris que sur le plan environnemental, bon, le pas franchi n'est pas quand même immense.
Il y a un bilan environnemental qui est nettement amélioré, hein. Faut savoir que les progrès à venir sur l'efficacité lumineuse et la durée de vie des LED devraient leur permettre à terme d'afficher un meilleur bilan environnemental de toutes les lampes, avec une réduction des impacts environnementaux. Mais ce bilan peut être amélioré par des progrès sur la fabrication et surtout sur le recyclage. Il y a quand même, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, c'est vrai qu'au niveau recyclage, il n'y a pas de mercure, mais il y a quand même des matériaux utilisés pour la fabrication des LED, l'indium, le gallium, qui sont quand même considérés comme critiques parce que c'est des ressources qui s'épuisent, hein, c'est des matériaux rares, donc c'est des matériaux qui ne se recyclent pas, donc l'enjeu c'est de réduire la quantité de ces matériaux dans la fabrication des LED pour réussir à les recycler, donc il y a quand même une marge importante de progrès là-dessus. Après, faut savoir qu'aussi, au niveau de la pollution lumineuse, les LED contribuent, si on n'y fait pas attention, davantage à la pollution lumineuse. Faut savoir que si le nombre de points lumineux ne cesse d'augmenter dans le monde, faut savoir que la démocratisation des lampes LED accentue la tendance. Et savoir que la composante bleue des LED, puisque le LED c'est une lumière quand même qui contient une composante bleue, bien cette composante se diffuse davantage dans l'atmosphère et provoque des halos de lumière plus importants. Donc elles sont aussi plus éblouissantes et donc par conséquent c'est quelque chose au niveau de la pollution lumineuse qui est à prendre en compte.
Mais justement, Jean-Louis, on a soupçonné souvent une dangerosité pour la santé aussi.
Oui, alors je continue là sur pour avant de venir sur la santé, il faut quand même savoir qu'au niveau de la pollution lumineuse, il y a 30% de la faune, des vertébrés, 60% des invertébrés qui sont nocturnes, et donc la luminosité est quand même quelque chose qui est important. Alors bon, il y a quand même des progrès qui sont faits avec les LED puisqu'on peut orienter vers le sol, éviter qu'il y ait des flux lumineux qui partent, mais ça demande des équipements prévus pour ça. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Alors maintenant, si on en vient à la santé, l'ANSES, l'Agence de la Sécurité de la Santé, qui est émise par les éclairages à LED, c'est des couleurs blanc, froid et bleu. Il y a des populations qui peuvent être sensibles au risque ou particulièrement exposées à cette lumière bleue, comme les enfants, les personnes qui sont atteintes de certaines maladies oculaires ou certaines populations de professionnels, donc qui sont soumis à des éclairages de forte intensité. Donc c'est vrai qu'au niveau de la santé, il faut quand même faire attention. Mais bon, les consignes, par exemple, c'est de ne pas se trouver à moins de 20 cm, mais généralement, on n'y est pas. Donc il faut quand même être vigilant sur ces lumières qui peuvent être dangereuse si on n'y prend pas garde.
Alors justement, tout à l'heure, vous parliez de l'impact, on en avait déjà parlé hein, de nombreuses fois dans cette rubrique, l'impact sur la faune qui est très important, et c'est pour cette raison que en début de rubrique, je mettais un bémol au fait qu'un super éclairage public peut révéler le dynamisme d'une commune, mais pas forcément un dynamisme sur le plan environnemental. Hein. Bon, alors on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Bertrand Trinel. Alors on en conclut donc, Jean-Louis, qu'il est tout à fait louable d'économiser l'énergie en adoptant un éclairage LED, mais à condition de réduire l'intensité lumineuse dans certains endroits, voire d'éteindre complètement pour préserver la vie nocturne de la faune.
Bah, il faut un éclairage public intelligent. Mmh. Ça veut dire un éclairage public intelligent, c'est de ne pas éclairer inutilement. Hein. Donc ça, c'est la première réflexion, c'est de savoir si l'éclairage est nécessaire pour une telle zone. Et donc, ne pas éclairer inutilement. Bon, respecter ensuite les normes. Hein. C'est important de respecter les normes en matière d'éclairage. Il faut réduire la puissance en cours de nuit. C'est pas la peine d'éclairer toute la nuit. Pour la sécurité, il y a que certaines périodes qui sont nécessaires. On peut aussi mettre en place des déclenchements d'éclairage à la demande, puisque maintenant avec les LED, on peut justement, là, c'est quand même l'un des avantages, c'est que ces déclenchements sont possibles. Et puis aussi assurer une maintenance de qualité. Donc tout ça avec un éclairage public intelligent, on peut justement avoir des solutions qui sont efficaces, hein, mieux ciblées, utiliser des normes moins puissantes. Donc on économise aussi l'énergie et c'est quand même un progrès important.
Tout à fait. Alors c'est vrai que dans les statistiques, il y a aussi 90% des Français qui affirment que l'éclairage public est un enjeu de sécurité. Finalement, c'est pas vraiment facile d'être maire, n'est-ce pas, Jean-Louis ?
Ah ben non, ça c'est il y a vraiment des choix importants.
Des choix à faire, hein, bien sûr.
Donc voilà.
En tout cas, merci de nous avoir éclairé, si je peux dire, sur ce sujet. Merci de toujours apporter vos lumières dans cette rubrique. Et comme nous ne sommes pas dans le cas d'en baisser l'intensité, bien nous nous retrouverons non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Merci à vous, Jean-Louis. Bonne semaine.
Merci et bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Au revoir.
Comme toutes les gamines, j'avais peur dans le noir des choses qu'on imagine cachées dans le placard. Les monstres de pénombre ne résistaient jamais quand s'allumait dans l'ombre ma lampe de chevet. Et j'ai béni souvent dans ces petites paniques les bras de ma maman et l'ampoule électrique. J'avais en ce temps-là des leçons à apprendre, de l'encre sur les doigts et le monde à comprendre. Professeur de piano ou maîtresse d'école ont fait voler plus haut mon âme de luciole. Et je jouais à survivre dessous mes draps en cloche à la lueur d'un livre et d'une lampe de poche. J'ai fait feu de tout bois, amoureuse tant et plus, que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai grillé des ampoules, cramé quelques lampions, les nuits où l'on se saoule, de fêtes sans passion. Mais j'ai eu pour la gloire, en lettres de néon, brillant sur les boulevards, la moitié de mon nom. Sur ma vie en morceaux, quand trop tôt viendra l'heure de l'ultime faisceau du dernier projecteur, je penserai sans doute à ces quelques lumières qu'on croise sur sa route, qui l'anime et l'éclaire. les lustres de cristal, la lampe d'Aladin, une lanterne, une étoile, ton sourire ce matin. Or, quand vacillera cette flamme qui est moi, cette loupiote nue, ce petit feu de joie à l'ombre des douleurs, et pour les faire taire, je veux pouvoir moi-même éteindre la lumière.
Juliette sur Radio Plus, et tout de suite ce sont les lumières de Bertrand Trinel qui vont nous éclairer pour essayer de jardiner autrement.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine, et bonjour aux auditeurs.
Alors on peut peut-être commencer par souhaiter une bonne fête à toutes les Bernadettes à l'écoute, avec un dicton qui leur promet une belle journée, car à la Sainte Bernadette, souvent le soleil est de la fête, et c'est le cas aujourd'hui Bertrand.
Oui, tout à fait.
Pour une fois, le dicton est réel. Alors, on commence, c'est vrai qu'on commence à entendre les oiseaux piailler, les jours rallongent bien, on a envie de se remettre au travail, surtout que le jardin se réveille petit à petit et commence à reprendre vie. Alors après les personnages, il y a les jonquilles qui commencent à sortir de terre. Alors Bertrand, on va pouvoir sortir la brosse pour brosser nos arbres fruitiers, car il faut déjà penser à eux pour avoir de beaux fruits, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Donc le fait de brosser l'écorce des arbres fruitiers, ça va leur permettre de les débarrasser des œufs, des larves, également des mousses et des lichens, parce qu'il y en a quand même pas mal qui s'accumulent pendant l'année. Alors c'est une pratique tout à fait naturelle. Alors surtout, il faut surtout pas employer une brosse métallique qui va abîmer l'écorce, mais on va utiliser plutôt une brosse de chien-dent. Alors on peut également utiliser un jet d'eau. Pourquoi pas un karcher, parce que les karchers, si on met un appareil haute pression, hein, de l'eau, on va l'utiliser alors à faible pression. Moi, c'est ce que j'utilisais pour enlever la mousse sur les troncs de bouleaux Jacques Monti, qui sont des bouleaux qui sont à l'écorce très très blanche et très lumineuse. Donc ça marche très bien. Ou alors sur les prunus cérulata, qui fait une écorce acajou très brillante. Alors ça fonctionne vraiment très bien. Bien sûr, pas en cas de gel, hein, mais en ce moment, ça peut le faire.
Alors, oui, c'est vrai que le karcher, ça va bien, mais bon.
Non, mais à faible pression, c'est super. Hein. C'est vrai que ça n'abîme pas l'écorce. Et ça débarrasse tout l'arbre, de toutes les mousses, des lichens, des œufs, des larves, tout.
Alors justement, d'autre part Bertrand, lorsqu'on a un arbre dégarni, peut-on planter maintenant à son pied des clématites qui iraient courir dans sa ramure? Surtout que les clématites ont une floraison assez longue et il y en a de toutes les couleurs, donc c'est assez joli.
Oui, alors les clématites sont assez jolies, mais après, tout dépend d'abord ce qu'on appelle par arbre démuni.
Quand il reste les ramures, quoi.
Ouais, donc un arbre mort alors, hein, parce que ça peut être aussi un arbre caduc qui perd ses feuilles en hiver mais qui diminue en ce moment. Donc, alors attention parce que certaines clématites, si c'est un arbre vivant, peuvent étouffer carrément l'arbre. Hein. Il y en a qui ont une vigueur tellement leur vigueur est grande. Hein, donc on va les réserver plutôt celles-là pour des arbres morts, pour des grands arbres morts. Par exemple la clématite Armandie, qui a un feuillage persistant et qui atteint facilement 8 mètres de haut sans problème. Ou alors les clématites Montana qui vont recouvrir l'arbre complètement en quelques années. Sinon, pour les plus petits arbres, ben, y a toutes ces clématites un peu herbacées là, qui feront très bien l'affaire. Elles sont de toutes couleurs. C'est vrai qu'il y en a des magnifiques également. Hein. Donc, il ne faut surtout pas oublier que la clématite a besoin d'un sol bien humifère, un sol riche, un sol un peu frais. Le pied doit être à l'ombre et les branches en plein soleil. Hein. Leur floraison, c'est vraiment un enchantement. C'est vraiment, y a vraiment un choix immense.
Alors, Bertrand, on n'a pas eu le courage d'affronter le froid ou la pluie pour préparer le jardin qui doit recevoir la plantation de légumes. Alors, que peut-on faire actuellement pour préparer cette terre? Est-ce qu'il y a urgence?
D'abord, je dirais, on est en mi-février. Hein. On est encore au plein cœur de l'hiver. Donc, pas de précipitation. La terre n'est absolument pas réchauffée pour effectuer des semis ou des plantations de pleine terre. Hein. Donc, il y a seuls quelques légumes qui peuvent être plantés maintenant ou semés. Par exemple, il y a l'ail. Plutôt on plante l'ail, il faut savoir que plutôt on va la planter. Plutôt on va récolter de belles têtes. Hein. Les oignons peuvent également être plantés en ce moment. Et demain, vous pouvez mettre aussi faire les premiers semis de petits pois à polis. Hein. Et bien sûr, c'est encore bien le moment de préparer le jardin, si ce n'est pas encore fait. Hein. Aérer la terre à la grenouillette, enlever tout ce qui reste, tout ce qu'on doit enlever du jardin. Et puis avec ce beau soleil, c'est vraiment que du plaisir d'être dans le jardin en ce moment.
C'est vrai, oui, oui. Alors, avec Jean-Louis Ouattet, nous avons abordé tout à l'heure ce problème de cette pollution lumineuse urbaine qui perturbe les animaux nocturnes. Alors, car chose qu'on n'imagine pas, c'est que cette lumière artificielle, on va dire, les empêche d'exploiter la lumière de la lune, par exemple, comme une boussole céleste, notamment pour se déplacer, se nourrir, survivre et se reproduire. Ce qui affaiblit énormément ces auxiliaires du jardinier que sont certains insectes. Par exemple.
Effectivement, et puis c'est pas secret pour personne, la lumière artificielle, qui en plus est extrêmement énergivore, faut le savoir, ça perturbe les animaux et notamment les insectes, qui sont déjà fortement en diminution à cause des pesticides. Ça aussi, c'est aussi un problème. Donc, il y en a tout autre de la lumière qui n'est pas artificielle, la lumière naturelle. Hein. La lune, la nuit, va réfléchir la lumière du soleil et fournit donc une lumière polarisée aux animaux, ce qui leur permet de se repérer et de bien vivre grâce à ces repères. Et puis des espèces nocturnes comme les insectes, les papillons de nuit, les criquets, les araignées, se déplacent grâce à cette boussole. Alors, des études ont également montré que l'effet de la dépolarisation de la lumière, c'est une sorte de pollution à portée mondiale quand même. Hein. Donc c'est énorme cette pollution qui est là. Et puis, il serait peut-être un peu temps de penser à éclairer un peu moins nos villes, ou bien les parkings des grandes entreprises. On éclaire les voitures toute la nuit avec des dizaines et des dizaines de lampes énormes. Donc, on nous demande à nous de faire des économies d'énergie. Et puis là, c'est un véritable gâchis, un gâchis, quoi. Alors, et puis, il ne faut pas oublier que c'est nous qui payons. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même essayer de réduire un peu cette lumière de nuit.
Comme dit Jean-Louis, de la lumière, oui, mais de la lumière intelligente.
Exactement.
Bien pensé, c'est-à-dire, mise à bon escient là où il faut.
Exactement. Mais les gens demandent toujours de la lumière pour éclairer leur passage, pour éclairer leur entrée. Quand on est dans un village, c'est inimaginable, hein, les demandes qui sont faites en mairie.
Ouais, c'est vrai. Alors, donc l'astuce, Bertrand, vous allez nous dire que c'est de plonger son jardin dans le noir.
Bah oui, on ne doit pas éclairer son jardin la nuit. Hein. On ne va pas perturber toute la faune qui y vit. Hein, de plus, alors ça c'est pour la faune, mais de plus, les plantes ont leur floraison qui est conditionnée à la durée du jour et de la nuit. Hein, c'est d'ailleurs à cause de ça que certains horticulteurs vont arriver à fournir des plantes qui sont en fleurs toute l'année.
D'accord. Donc,
on essaie de sensibiliser les consommateurs à manger des fruits et légumes de saison. Moi, je dirais que c'est la même chose pour les plantes. Pourquoi aller acheter, par exemple, un hydrangea qui a des grosses boules, un hortensia, par exemple, grosses boules bien bleues, tout ça, en janvier, alors qu'on sait quasiment que la plante est pas mourir, elle est condamnée parce qu'on ne pourra pas la repiquer, elle va se dessécher, et puis voilà. C'est un peu dommage, quoi.
Alors, oui, et puis il y en a qui éclairent leur bassin aussi, ça aussi, c'est...
Exactement, ouais, mais voilà, c'est comme ça. On aime bien de sa maison voir le bassin, mais il faudrait quand même, dès qu'on va dormir, arrêter cette lumière. Quand même.
Bien sûr. Alors, Bertrand Drinel, en tant que président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous allez nous rappeler que vous organisez le 9 mars un stage de grève de pommiers et de pruniers. Les amateurs peuvent encore prendre leur adhésion, leur donnant la possibilité de s'inscrire à ce stage, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement. Donc, comme chaque année, on organise ce stage de grève pour nos adhérents. Alors, ceux qui seraient intéressés par le stage doivent au préalable adhérer à notre association parce qu'il y a un problème d'assurance. Et puis, comme l'association, on demande 10 euros pour le stage, mais parce qu'il faut payer les formateurs et tout ça, les porte-greffes, mais l'association met quand même 5 euros de sa poche. Donc, il vaut mieux être adhérent pour nous, quoi. Mais de toute façon, en adhérent, il y a tellement de choses qu'elles pourront faire. Donc, participer à plein d'autres activités gratuitement, c'est intéressant.
Eh bien Bertrand, merci à vous. Alors on rappelle que tout est sur votre site, votre blog. On tape dans un moteur de recherche PJH ou des paysages, des jardins et des hommes, et tout est bien expliqué. Il y a des photos, il y a le bulletin d'adhésion, il y a toutes vos activités. Enfin voilà. Bon, c'est absolument complet. Bertrand, merci à vous. On se dit à lundi.
Eh bien, à lundi, ok.
Eh bien, très bonne semaine à vous.
Très bonne semaine, merci.
Merci.
Au revoir.
Doucement sous mes yeux, dans le vent paresseux, un cèdre se balance.
simplement naturel, juste entre terre et ciel, dans le bleu du silence, jouant dans la lumière d'une voix familière, il me parle tout bas. D'un monde de nuages, d'une île qui voyage, et je vois ce qu'il voit. Des filets accrochés, mille vagues qui dansent, le sable où les jours sommeillent, l'été où le cœur s'éveille.
Faille sur Radio Plus. Paul Léoto disait : les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre, et je parle de toutes les bêtes. Bonjour Christine. Alors c'est vrai que vous rêvez d'un refuge animalier vide, mais cela serait sans doute dans une autre société, peut-être un peu plus civilisée que la nôtre, avec des gens un peu plus responsables, un peu plus humains aussi. Bonjour Christine. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Martine. Je ne vous entendais pas, Martine, ce qui m'inquiétait. J'entendais de loin d'une petite voix. Bonjour Martine et bonjour à tous.
Alors, en tant que responsable du refuge de Vermel, je me permettrai d'abord la question de savoir comment vont vos petits protégés. On espère que la saison froide est terminée. Alors, dur cet hiver ou pas ?
Bah, disons que on, en tant qu'humain, on a toujours peur que nous, les animaux ont froid, mais je vous rassure, ils ont eu des couvertures à profusion, les gens ont répondu à nos appels, et à mon avis, ils ont eu quand même un confort de vie que ceux qui sont à la rue, Martine, n'ont pas. Donc on va dire que nos petits protégés vont bien, parce qu'ils sont protégés, ils sont chez nous, contrairement à ceux qui ne le sont pas.
Alors, je crois que quelques travaux ont été effectués pour améliorer l'accueil.
Oui, justement, puisque les locaux eh bien, deviennent quand même assez anciens. Je vous rappelle que le refuge a vu le jour en 1988. Donc l'isolation, eh bien, le refuge était guère isolé. Et nous sommes en train effectivement de faire quelques travaux afin d'améliorer les conditions de vie de nos petits protégés. Mais tout ça, Martine, il faut bien le dire, c'est grâce à la générosité d'une dame qui finance la totalité des travaux. Donc nous avons rénové également et isolé la salle d'isolement pour les chats, la pièce principale, on a refait la toiture qui fuyait de partout, hein, donc on a mis des tôles qui protègent du froid l'hiver et du chaud l'été, donc un minimum de confort, et cette personne, cette généreuse personne a été émue quand elle est venue au refuge de voir tous ces petits animaux, et elle voulait contribuer à leur bien-être.
Alors Christine, on sait que vous et toute l'équipe de bénévoles êtes toujours dans l'action pour amoindrir le plus possible le traumatisme de l'abandon et faire en sorte que vos pensionnaires n'aient pas trop à souffrir de l'enfermement du refuge, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. On essaye d'encadrer un maximum les chiens qui arrivent et les chats aussi, parce que les chats aussi sont traumatisés par l'abandon. Donc il y a c'est une équipe de bénévoles investi, motivé, dynamique. Donc que ce soit pour les promenades, pour aller chez le vétérinaire, pour l'attention portée justement aux nouveaux arrivants. Voilà, c'est vraiment une belle équipe. Et du fond du cœur, je leur dis merci.
Alors nourrir, soigner, vacciner, apporter un certain confort, bien sûr, ça coûte des donateurs, c'est vrai, mais aussi beaucoup d'actions engagées, des ventes, des spectacles, des manifestations, des banquets. Alors le dimanche 24 février, une troupe d'acteurs régionaux donneront un spectacle à Bully-les-Mines en votre faveur.
Exactement, donc c'est un plateau d'artistes patoisans exceptionnels. Au total, ils seront 15 artistes, dont Alain Lampence et la compagnie L'Artichaut, la troupe L'Arsenic de Liévin, Toudi Frazi du Valenciennois et Sylvain Tanière. Donc imaginez, Martine, tout ce plateau exceptionnel, ces patoisans qui donnent de leur temps. Donc ça fait la quatrième saison, la quatrième année consécutive qu'Alain Lampence organise ce type de spectacle au profit du refuge de Vermel. Donc venez nombreux participer à ce spectacle qui aura lieu donc dimanche 24 février à 15h30 à l'espace François Mitterrand à Bully-les-Mines. L'ouverture des portes est à partir de 14h30. Donc vous pouvez réserver. Je vous rappelle aussi que c'est franchement un spectacle unique, vous ne le verrez jamais plus nulle part ailleurs. Donc profitez-en. Donc vous pouvez réserver au 03 21 65 47 17 ou venir dimanche à partir de 14h30. Le spectacle démarrant à 15h30.
Et puis, comme chaque année, la salle des fêtes de Vermel accueillera tous ceux qui ont envie de passer un très bon moment autour d'une table. Un repas dansant qui est devenu incontournable pour certains. On s'y amuse, c'est convivial, on y revient.
Et c'est le 3 mars à la salle des fêtes de Vermel. Donc je vous invite également à y participer, à venir nombreux, comme vous dites, Martine. C'est un moment de convivialité partagée, puisque les gens qui sont présents eh bien, partagent aussi l'amour des animaux et viennent rendre hommage aux animaux du refuge de Vermel. Donc je vous invite d'ores et déjà à réserver au 03 21 65 47 17. Et pour plus de renseignements également. Merci pour eux.
Alors Christine, vous nous rappelez vos coordonnées et on invite les gens à aller sur le site, hein, les coordonnées du site, à savoir qu'il suffit de taper dans un moteur de recherche « Refuge Vermellois ».
Refuge Vermel, exactement. Donc vous avez le site internet et vous avez également la page Facebook qui est mise à jour, je vais dire au fil de l'eau, hein, régulièrement. Oui. Donc il y a les événements qui apparaissent aussi sur notre page Facebook et vous pouvez y apporter quelques petits commentaires.
Un appel, Christine ?
03 21 65 47 17.
Mais sinon, avez-vous quelque chose à demander ?
Oh, excusez-moi Martine, je pense que j'ai encore le cerveau qui doit être...
Endormi.
Endormi, oui. Ben écoutez, venez nombreux à nos manifestations, c'est tout ce qu'on vous demande.
D'accord. Eh bien, merci à vous et Christine, je vous dis à bientôt.
À bientôt Martine, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Voici que le poing prêt à fondre, sans ses doigts qui se fondent en espoir de caresse. Voici que le chien prêt à mordre, sans ses crocs qui se tordent sur la main et la lèche. Voici que la biche fragile peut s'en aller tranquille boire à la source pure. Voici que ne sont que murmures, que souvenirs lointains, les aboiements des chiens. Voici que la main qui se tend bien avant de sécher sans qu'une autre la serre. Voici que le geste se rend et que la main serrée à son tour va le faire. Voici que les portes s'entrouvrent, que les tables se couvrent d'un couvert en attente. Voici que les verrous se cassent et que l'œil se lasse de guetter par les fentes. Voilà que les doigts se referment, que les crocs se font fermes. Et voilà qu'ils se battent. Voilà que la biche se traîne, la source devient terne sous la meute qui chasse. Voilà que la main se fait lâche, que l'autre s'en détache. Et voilà qu'elle s'enterre. Voilà que les portes se ferment, les tables se desservent et tout est à refaire. Pauvre monde, pauvre monde, tiens, tu fais peine à voir. Pauvre monde, pauvre monde, c'est vraiment sans espoir.
On espère que si quand même, on espère qu'il y a toujours, il y a toujours une lueur d'espoir, n'est-ce pas ? Il y a toujours une lumière au fond du tunnel. En tout cas, merci à Georges Chelon pour cette superbe chanson. Eh bien, dites donc, nous voici donc à la fin de l'ère du temps. Alors, serez-vous avec moi durant cette prochaine heure ? Je l'espère. En tout cas, passez une excellente matinée. Je vous retrouve pour l'heure du temps la semaine prochaine, mais là tout de suite, donc place à Kaléidoscope avec ses découvertes, ses bons et ses bons moments musicaux. À tout de suite.